Et on se posait la question si la neige avait refroidi les Lyonnais. Et puis, comme il est vrai qu'en 15 jours, j'en suis à la moyenne d'une conférence tous les 3 jours, et je commençais à m'habituer, ça doit être ça, à des effectifs de 150-200 personnes. Dès qu'on parle de Clovis, tout le monde court, actuellement en France, ou du Saint-Suaire. Et puis là, aujourd'hui, l'émission, visiblement, c'est dommage, parce que l'émission, c'est quand même un des sujets qui est souvent le moins évoqué, le moins traité, le moins connu, parce qu'il est vrai qu'en plus, dans la partie, il y a très peu d'historiens d'émission. C'est pas que ce soit difficile à aborder, c'est que c'est une branche de l'histoire qui est nouvelle ou qui est... Oui, c'est ça, qui est peu abordée, même dans nos milieux d'ailleurs. On ne voit pas d'ouvrages sur l'émission, de choses de genre. C'est curieux. Bref, en tout cas, c'est un sujet important parce que c'est un des aspects de la politique religieuse de la France, puisque la France a dominé au niveau des missions depuis plusieurs siècles. Alors, l'abbé Portail a mis le baptême et l'émission au XIXe siècle. Alors, maintenant, il faut essayer de trouver un moyen de rattacher l'émission du XIXe siècle en France au baptême. Oh, c'est pas bien difficile. Pour cela, je vais faire dans une introduction, rattacher ça à l'événement fondateur, 496. Et puis, je ferai rapidement, très rapidement en introduction, un balayage. Le mot n'est pas très beau, mais qui veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire des missions jusqu'à la Révolution française. Et puis après, je poserai les problèmes concernant ces missions au XIXe siècle. Je ne déborderai pas du XIXe siècle, puisque le XXe siècle pose une nouvelle problématique sur les missions, liée d'une part avec l'affaiblissement des missions, des vocations, chute des vocations, et aussi avec le problème de Vatican II. Donc, sachant qu'en plus, un certain nombre de missionnaires ont anticipé Vatican II, ou disons Vatican II, à Vatican II ont été proposées des nouvelles idées sur les missions, nouveaux regards, qui étaient déjà des méthodes qui étaient appliquées par des missionnaires. Alors le fondement de cette vocation missionnaire de la France, je citerai tout de suite un chiffre pour vous donner une idée, en 1900, 2/3 des missionnaires dans le monde entier sont français, 2/3 des missionnaires, en 1900, hein, à la fin du 19e siècle. Ce qui montre le rôle, au bout d'un siècle de reprise et d'apogée des missions, le rôle de la France. Ce rôle est considérable. On sait, en 496, enfin pour d'autres 98, pour d'autres 99, bon, là aussi on peut continuer, hein, chacun a ses idées sur la question, qui ne sont pas toutes d'ailleurs très convaincantes. Donc, 496, Clovis se convertit et baptisé à Reims. On a déjà vu, on le sait. Et à la suite de son baptême, saint Avit, évêque de Vienne, lui envoie une lettre où il lui déclare, entre autres, « Maintenant que le Seigneur s'est servi de vous pour conquérir votre peuple, étendez votre sollicitude sur les autres nations encore ensevelies dans leur ignorance. Tirez de votre cœur cette bonne semence de la vérité et jetez-la sur ces peuples que n'ont pas encore gâté les dogmes pervers de l'hérésie. » Alors, il s'agit ici, bien sûr, de ceux qui sont atteints par l'arianisme et qui enserrent la France. Et saint Avit dit à Clovis, eh bien, c'est simple, non seulement bon, maintenant vous êtes un roi chrétien, donc en tant que chrétien, vous avez le devoir d'être missionnaire, mais encore plus en tant que roi. C'est-à-dire, au fond, aller à la conquête de ces peuples qui sont encore plongés dans les ténèbres du paganisme et qui n'ont pas été pervertis par l'hérésie. Maintenant, bon, tout le monde a entendu donc des exposés différents ci ou là sur Clovis, et tout le monde sait combien la persécution arienne est atroce, hein, envers les catholiques, alors que les païens massacrent, pillent, c'est entendu, mais c'est dans leur nature, ils sont guerriers, on pourrait dire qu'ils ont l'esprit saint, en quelque sorte, alors, esprit saint, S-A-I-N, et sans trait d'union, mais, et que les ariens, eux, au contraire, étant chrétiens, mais chrétiens tordus, on pourrait dire, eh bien, ils vont persécuter les catholiques, donc gallo-romains. Alors, à la suite de ça, donc, Clovis, les Mérovingiens, vont se lancer dans la conquête donc de territoires, mais les Mérovingiens vont favoriser l'expansion missionnaire, l'expansion du christianisme. Alors, Saint-Rémy avec Saint-Vaast ou Saint-Gaston vont reprendre la christianisation de la région du Nord, hein, et puis la reine Bruno laissera passer Saint-Augustin, qui vient envoyé par Saint Grégoire le Grand pour aller évangéliser l'Angleterre. Au passage, je signale que cette évangélisation de l'Angleterre est quelque chose d'extraordinaire. L'arrière-petite-fille de Sainte Clotilde, qui est venue avec un évêque gallo-romain, un évêque franc, lui de part, convertit le roi Ethelbert, le roi de Kent, de l'heptarchie. Et ensuite, l'arrière-arrière-petite-fille, donc la fille de Berthe, la fille de Berthe, va convertir le roi de Northumbrie en Angleterre. C'est-à-dire qu'on a une arrière-petite-fille de Clotilde et une arrière-arrière-petite-fille de Clotilde. Et on retrouve toujours le même phénomène, hein, ces femmes qui convertissent ces hommes, et on a là, on voit cette filiation chez les Francs, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Sous les Carolingiens, l'évangélisation prend une autre allure. Les Carolingiens interviennent plus directement en faisant une sorte de politique, mais à grande échelle. Alors Charlemagne qui va lui à la fois conquérir les Saxons et les convertir, et puis ensuite Louis Ier le Débonnaire, Louis le Pieux, qui fera appel à Saint-Enchaire pour évangéliser les peuples scandinaves. Ensuite, cette évangélisation en France, au fond, va, semble-t-il, rentrer un petit peu en sommeil à la période capétienne, vers le 9e-10e siècle. On ne rencontre plus de véritable volonté évangélisatrice sur le plan politique, on pourrait dire. Et puis, il faut attendre Saint-Louis qui envoie des missions et favorise des missions franciscaines vers le Khan, le Grand Mongol, qui échoueront d'ailleurs. Et puis après, nous avons ces tristes 14e et 15e siècles, où là, la France et l'Europe traversent une grave crise, guerre de 100 ans, peste de 1348. Et à la fin de ce siècle, c'est l'Espagne, Portugal, qui sont eux-mêmes conquérants et qui vont prendre un petit peu le relais dans des secteurs qui sont l'Asie et l'Amérique, qui deviendra l'Amérique latine. Et puis, la papauté va reprendre la mission. Alors bon, il va y avoir bien sûr les jésuites. Les jésuites vont aider en Espagne la couronne espagnole, au Portugal la couronne portugaise, en France. Hein. Au passage, j'oubliais quand même 16e siècle, il ne faut pas oublier le Canada, hein, la France qui va jouer un très grand rôle au Canada, avec notamment les colonies de peuplement. On va tenter d'évangéliser les populations indiennes. Hein. François Ier, de son côté, essaye de soutenir les communautés chrétiennes schismatiques, hérétiques, de rite latin, de rite grec, de rite maronite, copte, etc., du côté de du Levant, ce qu'on appelle les pays du Levant, avec la protection de Soliman II le Magnifique, la sublime porte, la protection des échelles. Parce que là, les chrétiens étaient victimes d'avanie, et notamment, il y a un célèbre Lyonnais qui est François Piquet, qui travaillera là-bas en tant qu'ambassadeur, qui fera énormément pour les catholiques, et pour les chrétiens même de tout rite. Et ensuite, il deviendra lui-même missionnaire. Après ça, eh bien, il faut attendre donc surtout le XVIIe siècle, 1622, au moment où la Propaganda Fidei est créée à Rome et que va être lancé le séminaire des missions étrangères de Paris. Alors ce séminaire des missions étrangères de Paris, vont rentrer dedans des gens qui font partie de cette, on pourrait dire pas société secrète, mais dont a fait partie Saint-Vincent de Paul, dont M. l'abbé va me souffler le nom parce que je l'oublie maintenant. La confrérie du Saint-Sacrement, merci. Voilà. Confrérie du Saint-Sacrement, hein, où un certain nombre d'hommes de très grande qualité vont rentrer ici, vont devenir vicaires apostoliques. Vicaires apostoliques, c'est-à-dire qu'ils vont obtenir des territoires de mission qui sont pris en main par Rome directement. Alors il semble que là, à partir du XVIIe siècle, Rome prend vraiment en main la réévangélisation ou l'évangélisation de certaines parties du monde, alors qu'elle avait laissé ça, finalement, dans le cadre du patronat et patronado, aux Portugais et aux Espagnols. Ce qui va créer d'ailleurs des conflits entre les couronnes portugaises et espagnoles et la papauté. Nous allons voir ça dans un moment. Et puis, avec les missions étrangères de Paris, vous avez les lazaristes, ce qu'on appelle la congrégation de la mission, fondée par Saint Vincent de Paul, qui elle aussi est missionnaire du côté de l'Asie. Il y a les pères du Saint-Esprit. Mais à l'époque, il ne faut pas parler d'évangélisation du côté de l'Afrique, il faut plutôt parler d'évangélisation du côté de l'Amérique et de l'Asie. L'Asie, donc les populations jaunes ou indiennes. Arrive là-dessus le XVIIIe siècle, un XVIIIe siècle cynique, rationaliste, qui critique la mission, qui condamne même l'esprit missionnaire au nom du même esprit qui le condamnerait aujourd'hui, à savoir qu'il faut laisser ces gens dans leur ignorance car nous allons les pervertir, etc. Et puis c'est le jour où finalement ces mêmes prétendus philosophes vont eux-mêmes voir ces bons sauvages qui redeviennent un petit peu dégoûtés, hein, ne trouvant pas dans le bon sauvage l'image ou le portrait qu'ils en avaient fait eux-mêmes dans leur propre littérature. Et la Révolution française commence par un événement brutal, enfin elle commence bien avant le 14 juillet, mais le 13 juillet, la société des lazaristes est détruite, pillée, brûlée, parce qu'on le bruit courait que des sacs de poudre étaient cachés là, alors qu'il s'agissait de sacs de farine pour nourrir les orphelins, les petits ménages, les personnes âgées, les retraités. Donc la maison des lazaristes est brûlée, détruite, définie. Pendant cette période de la Révolution, les missions étrangères de Paris, ça sera pareil. Et quant à la maison du Saint, au Père du Saint-Esprit, c'est la même chose. Alors, on constate qu'en plus, cette destruction des trois grandes maisons missionnaires arrive à la fin d'une époque d'un déclin, déclin des vocations, déclin des missions. Qu'est-ce qui a été l'élément qui a entraîné la chute vertigineuse des missions? C'est la suppression, 1773, de la Compagnie de Jésus. La Compagnie de Jésus. Et alors là, les missions ne s'en relèvent pas. Ce qui fait que fin 18e, fin de la Révolution, début de l'Empire, période de l'Empire, en quels termes se pose le problème des missions? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de propagande d'affidés. Les armées du directoire sont allées jusqu'à Rome. En 1798, ils jubilent en disant que ça y est, le fanatisme est écrasé, c'est terminé, on n'entendra plus parler. Donc, il n'y a plus de congrégation missionnaire, il n'y a plus de soutien de la part de Rome, c'est fini. Alors, est-ce que l'Église, à la fin du 18e, début du 19e, est-ce que l'Église va pouvoir reprendre son effort missionnaire sans le soutien de l'État, puisque le problème se pose de cette façon-là? Où va-t-elle trouver l'argent? Parce qu'il va falloir de l'argent. Avec la disparition des écoles paroissiales, des écoles monastiques, des collèges jésuites, des ordres, va-t-elle avoir assez de vocations? Comment va s'opérer cette reprise? Est-il possible de retourner dans les anciennes missions et d'ouvrir de nouveaux champs d'apostolat? D'autre part, le 19e siècle, c'est le siècle de la colonisation, ou alors, pour employer un terme moins chargé, on pourrait dire politiquement, ou plus objectif, c'est l'époque de l'expansion européenne sur un point de vue d'un point de vue économique, politique, militaire. Est-ce que l'effort missionnaire marche de pair avec cet effort colonisateur? Encore faut-il préciser de quelle colonisation on parle. Est-ce bon que la mission collabore avec les colonisateurs? Est-ce que les missions ont eu de l'aide des milieux d'affaires, de la bourgeoisie d'affaires au XIXe siècle? Est-il bon même qu'elle ait cette aide ou qu'elle y recourt? Y a-t-il même une relation étroite entre les deux formes d'expansion? Ou n'y en a-t-il pas? L'Église a-t-elle confondu les intérêts de Dieu et ceux plus temporels de la colonisation? Au fond, on peut poser toutes ces questions, on est en droit de se les poser, compte tenu de la façon dont habituellement le sujet est traité. Et même chez des historiens universitaires fort sérieux, qui traitent ça avec gravité et qui finalement reprennent les mêmes âneries, on pourrait dire, qui sont propagées sur la question depuis des années. Sont-ils responsables? La plupart du temps, non, parce qu'au fond, cet aspect missionnaire n'a jamais été réellement étudié. Nous allons donc voir dans une première partie la reprise des missions, avec les œuvres de soutien. Dans une deuxième partie, nous verrons les territoires de mission au XIXe siècle. Et dans une troisième partie, je répondrai aux questions sur le rôle des missionnaires destructeurs ou sauveteurs des cultures, des missionnaires collaborateurs ou non collaborateurs, ou occasionnellement avec la colonisation. Première partie, la reprise des missions, les œuvres de soutien, les congrégations, les vocations. Au fond, tout ce qui est autour de la mission, ce qui est les bases de départ et de soutien. Alors, l'idée de mission survit pendant la Révolution, bien sûr. Le missionnaire est missionnaire chez lui. Le manuel des missionnaires, écrit à leur intention en 1796, les exhorte précisément à imiter ceux qui portaient la foi en pays infidèle, à aller où l'exigerait le bien commun de l'Église. À Lyon, le vicaire général Linsolas déclare que la France est devenue une sorte de territoire de mission. Une malheureuse patrie présentant à la religion désolée les mêmes difficultés que les contrées idolâtres. Donc en termes clairs, ça veut dire que ce n'est pas le moment d'aller en mission, il y a tout à refaire chez nous. Hein, donc s'organisent, aussi bien dans le diocèse de Lyon qu'ailleurs, dans tous les diocèses, des missions ad intra, des missions intérieures, étendues avec un chef de mission et des missionnaires, pour affermir l'Église. Alors à Lyon, par exemple, à l'appel du vicaire général Linsolas, eh bien des jeunes qui sont issus du négoce lyonnais, c'est-à-dire de la bourgeoisie lyonnaise, la bonne bourgeoisie, et qui vont assurer clandestinement le catéchisme. L'un d'eux, en 1802, Benoît Coste, fonde ce qu'on appelle la Congrégation lyonnaise. Congrégation lyonnaise, dont le but est de procurer le salut aux âmes par une mission à exercer collectivement. Cette association a un but apostolique et les membres cultivent des sentiments royalistes. Le redémarrage de la mission se fait dans les milieux royalistes. C'est typique à Lyon, mais je crois qu'on pourrait le voir ailleurs aussi, un petit peu partout. Je parlerai tout à l'heure du cas de Mgr Masneau, vous verrez. Quand c'est affirmé publiquement, ce n'est pas sans créer des problèmes. Car au fond, on se rend compte très, très vite que, en l'espace de 25 ans, en l'espace même, non, même pas 25 ans, 1802, en l'espace de 10 ans, la France a été profondément démonarchisée, on pourrait presque dire. Car beaucoup sont catholiques et vont à la messe, une fois d'ailleurs que le culte, après le concordat 1801, mais on accepte de retourner à la messe, d'aller dans le giron de l'église, entendu, mais plus de politique. Si par hasard le curé ou l'évêque se met à prêcher et se met à crier « Vive le roi », ça lui pose des problèmes. Beaucoup de catholiques écrivent à Rome et ont fait virer l'évêque. Ça sera le cas de Mgr Masneau. Il provoque des émeutes auprès de ses fidèles. C'est dire qu'en 10 ans, des dégâts énormes ont été faits dans la population. Parmi ces gens qui, par exemple, pour prendre le cas de Lyon, qui est une grosse ville, ces personnes, ce personnel qui va défendre la foi ou qui va revenir, qui va propager des missions intérieures, eh bien, on trouve des familles dont des membres ont été massacrés pendant le siège de Lyon, hein. D'autres ont caché chez eux des prêtres réfractaires. C'est le cas, par exemple, de la famille Vianney, à Écully, hein, où le petit Vianney fera sa première communion dans la cuisine. C'est un prêtre réfractaire, un prêtre fidèle à Rome. Donc, vous voyez tout de suite quels sont les milieux qui maintiennent ce flambeau de la mission. Mais on ne parle pas de mission extérieure, on parle de réévangélisation, au fond, de mission ad intra, de mission à l'intérieur, mais de réévangélisation de l'intérieur. Et c'est un point important parce que on va très vite sauter le pas pour aller vers la mission extérieure. Et c'est de ces milieux-là qui forment des petits groupes, le cas par exemple à Lyon de la paroisse Saint-Nizier. Extraordinaire, ces paroisses Saint-Nizier. Il y a là le père Coindre, qui va fonder le Sacré-Cœur de Jésus, congrégation qui deviendra missionnaire. Pauline Jaricot, dont je vais parler, va à Saint-Nizier, elle entendra un sermon qui va la bouleverser. Elle a des amis à elle, elles vont former une communauté, sortira une congrégation d'hommes, une congrégation de frères, une congrégation de femmes, qui seront toutes missionnaires à l'extérieur. Je pense que dans la plupart des villes de France, des grandes villes de France, des grandes métropoles, ça se passe de la même façon. Il y a un rôle très important de ces milieux catholiques qui ont résisté pendant la Révolution française. Donc un petit peu partout en France, on reprend conscience de l'importance de la mission. Et beaucoup de prêtres, en émigration, pendant l'émigration, retrouvent le sens de leur vocation missionnaire. Le rétablissement de l'unité religieuse, l'expansion de la catholicité préoccupe ces émigrés dans un monde protestant où ils voient la mission auprès des païens devenir précisément, durant ces années, un objectif essentiel. C'est-à-dire que des prêtres qui sont partis en émigration, bon, il ne s'agit pas de les juger, savoir si on a eu affaire à des gens courageux par rapport à ceux qui sont restés, des gens un petit peu peut-être mondains, qui avaient perdu le sens de leur vocation sacerdotale. Ils sont allés en émigration, ils ont vu les milieux protestants, du côté de l'Allemagne, du côté de l'Angleterre, qui eux-mêmes étaient missionnaires à l'extérieur. Il s'est produit un déclic, ils sont revenus. Et beaucoup iront aux États-Unis, au Canada, en Océanie, ailleurs, dans les missions. La littérature aussi semble avoir joué un rôle. Et là, on pourrait parler du rôle du génie du christianisme. Chateaubriand y fait une vive apologie des missions. C'est curieux. Chateaubriand fait une très vive apologie des missions dans le génie du christianisme. Et l'ouvrage a un succès incontestable. La quatrième réédition en 1804 et la cinquième édition, toutes deux sont réalisées à Lyon par l'imprimeur Ballanche. Et elles arrivent à point pour soutenir ce renouveau de la mission, ce travail d'apostolat. Et le travail d'apostolat en prix par les laïcs. Jean-Claude Beaumont, qui a travaillé sur cette question à Lyon, dit qu'il reconnaît le grand mérite d'avoir fortement contribué à recréer un climat favorable aux missions et d'avoir réhabilité des ouvrages des missionnaires. Oui. Parce que juste avant la Révolution, enfin, au moment de la Révolution, au XVIIIe siècle, ce travail était décrié. Donc qu'un homme comme Chateaubriand en parle et qui est quelqu'un de connu, ça permet de faire refleurir des vocations. Et il y en a d'ailleurs qui auront des vocations qui partiront de la lecture du génie du christianisme. Ces vocations, d'ailleurs, nous allons voir comment et par quels moyens elles vont naître en France. Qu'est-ce qu'il y en a à l'origine? Il y a, au début du XIXe siècle, une jeune fille de la bonne société qui rêve, bien sûr, elle rêve de belles soirées, de bals. C'est une famille de soyeux, c'est famille du grand négoce. Il s'agit de Pauline Jaricot. Les Jaricot ont 7 enfants, dont 5 qui sont nés pendant la période révolutionnaire. Marie-Pauline est née le 22 juillet 1799, quelque temps avant le coup d'État du 18 Brumaire. Elle est baptisée le jour même par un prêtre réfractaire. Elle a un compagnon de jeu qui s'appelle Phileas. Phileas deviendra prêtre. Il viendra prêtre à Paris. Et tous les deux, ils font un vœu, celui de se consacrer aux missions. Alors, il y a quelque chose d'assez touchant et d'assez extraordinaire. Alors, Phileas dit, moi, j'irai en Chine. Alors, sa sœur lui dit, écoute, je vais te suivre. Alors, son frère lui dit, écoute, pauvrette, tu peux pas, mais tu prendras un râteau, hein, et tu ramasseras des tas d'or, tu me les enverras. Il ne pensait pas si bien dire. C'est même quasiment une prophétie, parce que Pauline Jaricot va être à l'origine d'une œuvre qui sera une œuvre des plus célèbres dans le soutien de la mission. Elle devient adolescente, son rêve des missions s'éloigne, elle s'étourdit dans les réunions mondaines, on participe aux grandes festivités, donnée à Lyon l'honneur du passage de la fille de Louis XVI, on la promet à un jeune homme de Saint-Vallier, elle est heureuse. Et puis tout d'un coup, il y a un accident qui vient bouleverser sa vie. Elle fait une chute, elle tombe gravement malade. Sa vie est en danger. Alors sa mère, profondément catholique, très pieuse, eh bien, donne sa vie pour la guérison de sa fille. Madame Jaricot meurt peu après et sa fille guérit. À ce moment-là, Pauline a une espèce de crise intérieure en se disant qu'après tout, la vie qu'elle a menée avant ne peut plus s'accommoder avec ce qui vient d'arriver. C'est fini. Et c'est à ce moment-là que tout va basculer. Elle écoute un sermon sur la vanité de l'abbé Wurtz à Saint-Nizier. Elle se confesse, elle rentre chez elle et elle change radicalement de vie. On balaye toutes les belles robes, tous les bijoux et elle s'habille comme les ouvrières. On est en 1816. Autour d'elle, on rigole. Et Pauline fait attention, tu prends le bouillon un peu trop tôt, tu vas te faire mal et puis finalement tu vas tout laisser tomber. Et puis finalement, elle laisse. Oh, on dit, oh, c'est une originale tout d'un coup, elle a eu un problème, oh, elle a été malade. Mais non, il en reste quelque chose, enfin bref. Elle monte au sanctuaire de Fourvière et elle fait vœu de chasteté. Et à partir de cet instant, elle va se consacrer aux pauvres et à réaliser son rêve des missions. Et elle anime un groupe dans son quartier auquel elle donne le nom de réparatrice du cœur de Jésus méconnu et méprisé. C'est extraordinaire le nombre de groupes qui font référence à la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus en ce début du XIXe siècle. Son frère, qui est séminariste à Saint-Sulpice, apprend qu'aux missions étrangères de Paris, on a des difficultés d'argent. Alors, il fait appel à sa sœur. Et sa sœur va trouver une idée géniale pour récolter de l'argent. Elle forme une association de chefs de dizaines, puis des chefs de centaines, et enfin des chefs de mille, tous associés. Chacun doit donner un sou par semaine pour la propagation de la foi. Et comme ça touche tous les milieux populaires, c'est un succès, et les sommes deviennent très vite très importantes. Là-dessus, la propagation de la foi récoltera des sommes énormes. Pour l'aider, elle s'associe à un commis en soierie, Victor Giraudon. Quelques prêtres la mettent en garde. Mais Pauline reçoit les encouragements de son frère qui, lui, est à Paris et qui voit. Continue, ainsi que Giraudon, de propager cette œuvre que Dieu a commencée par vos mains et qui est peut-être le grain de Sénevé qui doit produire un grand arbre dont les rameaux bienfaisants couvriront de leur ombre toute la surface de la terre. En 1822, Monseigneur Dubourg, qui est le premier évêque de la Louisiane, envoie son vicaire général Angelo Inglesi, qui s'avéra être d'ailleurs un voleur. Oui, c'est triste à dire. Le vicaire général Inglesi récupérera des sommes et puis ils disparaîtront. Pour réclamer de l'aide pour ses missions. Alors Inglesi s'adresse à Lyon, à Benoît Coste, qui a fondé la congrégation. Et à ce moment-là, on retrouve Benoît Coste, Pauline Jaricot, tous ces milieux-là, et hop, ça fusionne. Et on a tout d'un coup l'idée d'une œuvre universelle. On va fonder une œuvre pour aider les missions. En mai 1822. Première réunion à laquelle Pauline Jaricot est invitée. Mais à ce moment, Pauline est à Saint-Vallier, elle est malade. Et à son retour, Benoît Coste explique que son plan est appliqué et à une œuvre destinée à propager l'évangile dans le monde. Alors elle s'en remet à ces messieurs, puis elle dit, ma foi, que Dieu ait suscité d'autres instruments pour faire valoir la propagation de la foi, eh bien, elle en est toute heureuse. Et puis elle fonde le Rosaire vivant en 1826. Ce qui fait que Pauline Jaricot est à l'origine d'un vaste réseau de charité et de soutien à la mission. Ce qui va se passer, c'est que petit à petit, on va oublier Pauline Jaricot. Enfin, ces messieurs vont oublier Pauline Jaricot. Et au bout de quelques années, ils vont tous penser qu'ils sont les géniaux inventeurs de cette idée de la propagation de la foi. Elle, de toute façon, n'en a cure, c'est pas son problème. Elle a une idée, c'est de fonder une usine pour reconquérir spirituellement la classe ouvrière, en appliquant donc des principes d'une doctrine sociale de l'Église avant l'encyclique sur les ouvriers de Léon XIII, bien avant, bien sûr. Malheureusement, cette œuvre, ça va être sa perte, parce qu'elle achète avec son argent l'usine de Rustrel en Vaucluse, mais comme elle est victime d'un escroc, elle fait faillite, elle passe devant les tribunaux, elle est déconsidérée et rejetée par les messieurs de la propagation de la foi, et elle meurt le 9 janvier 1862 dans la misère la plus profonde, avec quelques amis qui lui auront jamais fait défaut. Il reste d'ailleurs toujours ça à Lyon. D'ailleurs, les messieurs de la propagation de la foi sont... C'est un milieu très difficile à aborder. J'ai essayé... On m'a donné que quelques miettes d'éléments. C'est très décevant. C'est un monde qui garde ses papiers, qui est un petit peu replié dessus, qui n'aime pas trop évoquer ses problèmes, parce que c'est vrai qu'ils passent pour finalement un petit peu radins aussi dans leur manière de gérer cette affaire-là. On voit, d'ailleurs, il y a des histoires à n'en plus finir. On ne va pas s'étendre dessus. Et il reste, quand vous montez à Fourvière, vous montez par le chemin du Rosaire, il y a un petit chemin, il y a marqué « chemin privé interdit de passer » qui est barré et qui monte directement à la cathédrale, à la basilique. C'est ce petit chemin qu'empruntait Pauline Jaricot. Et il y a été fermé. Depuis, il n'a jamais été rouvert et le contentieux reste toujours là vis-à-vis de cette pauvre fille. Néanmoins, il y en a un qui avait bien vu qui était Pauline Jaricot, c'était le curé d'Ars. Trois ans avant sa mort, ensuite, en 1865, un missionnaire lyonnais, le père Louis Saint-Cyr, de la Compagnie de Jésus, lui rend justice dans un livre, « Les nouveaux jésuites français dans l'Inde ». Et il déclare, « Elle est la première, elle conclut, conçut l'idée de l'œuvre admirable et si éminemment catholique de la propagation de la foi. » C'est un témoignage de poids. Puis en 79, Julia Morin, une amie passionnée, édite un ouvrage où elle dit la vérité. Alors là, c'est une polémique. D'abord, les messieurs de la propagation sont ahuris. Comment dire ça de cet escroc, de cette femme qui est une voleuse, qui est un... Enfin, bon. Et puis, il y en a qui apprennent tout d'un coup qui est Pauline Jaricot. Et ensuite, bien c'est le pape Léon XIII qui clôt le débat. En 1880, il félicite Julia Morin. Et ensuite, sa cause de béatification est introduite. Et Jean XXIII signera, le 25 février 63, le décret d'héroïcité. Elle est donc aujourd'hui vénérable. Et le père Naïdenov, qui est très malade actuellement, mais qui préparait un ouvrage, une biographie dessus, a fait un petit opuscule où il demande de l'invoquer, de prier pour elle, pour la faire canoniser. Donc, on pourrait dire ici qu'à la fois Pauline Jaricot et Lyon ont rendu un grand service à la mission, puisque est résolu un problème qui n'avait jamais été résolu depuis 1622, par la propagation de la foi, une œuvre de soutien financier à la mission. Une œuvre qui va structurer et qui va se répandre dans le monde entier, mais vraiment dans le monde entier. Et des sommes fabuleuses. En 1822, le pape Pie XI va transférer, par un motu proprio, cette œuvre à Rome. Cette œuvre est transférée à Rome, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, il veut lui donner, du moment qu'elle est universelle, il veut en faire une espèce d'institution vraiment pontificale, tout en dépouillant un petit peu Lyon. Lyon a le sentiment d'être dépouillé. Bien que les conseils centraux de Paris et de Lyon restent en France, ils gèrent. À Lyon, ça se situe à côté de la faculté catholique rue Sala, angle rue Sala et rue du Plat, où il y a ce centre des œuvres pontificales missionnaires. C'était la première institution. 21 ans après la fondation, en 1822, de la propagation de la foi, Monseigneur de Forbin-Janson, oui, je commettais une erreur tout à l'heure parce que je disais Monseigneur de Masneau, c'est Monseigneur de Forbin-Janson. Monseigneur, je rétablis la vérité ici. Monseigneur de Forbin-Janson, qui est évêque de Nancy, va créer l'œuvre de la Sainte Enfance. Alors, il naît dans une famille prestigieuse. En 1805, il entre comme auditeur au Conseil d'État. Sa mère pense se marier à la fille du marquis de Règlecourt, mais Charles est attiré par le sacerdoce. Alors, la fille, il n'en veut pas. Il est âgé de 23 ans, il entre à Saint-Sulpice. Prestigieux Saint-Sulpice. Séminaire Saint-Sulpice, diront aux États-Unis. C'est un ordre qui est appelé à Lyon, d'ailleurs, même, pour remonter le séminaire. Ces messieurs de Saint-Sulpice sont partout. Il va rencontrer l'abbé de Solages, préfet apostolique de Madagascar, et l'abbé de Masneau, qui fondera les Oblats de Marie Immaculée. Il est ordonné, il va devenir l'évêque de Nancy en 1824, et comme il est missionnaire dans l'âme, eh bien, il prend son diocèse pour, finalement, un territoire de mission extérieure. Donc, il part à l'assaut du diocèse, et il essaye de reconvertir tout le monde. Et puis, alors, il a des sermons extraordinaires, très emportés, à la fin desquels il crie d'ailleurs toujours « Vive le roi !» Et à force de crier « Vive le roi !», eh bien, les protestations arrivent à Rome, et en 1830, au moment de la révolte, eh bien, les fidèles se révoltent. Et il est obligé de s'enfuir à Fribourg. Alors, comment il ne peut pas réintégrer son diocèse ? Il garde quand même son titre, il se fait nommer un coadjuteur. Et le reste de sa vie, ben, il va le consacrer à la fondation de l'œuvre pontificale de la Sainte Enfance, destinée à racheter les enfants dans les pays d'Asie et à s'occuper des enfants qui meurent sans baptême. Alors, on fera même donner aux petits-enfants catholiques en Europe un sou pour s'occuper pour le verser pour ces petits-enfants, pour les sauver, pour leur donner le baptême. Une autre association va voir le jour, fondée par les dames Bijard. Alors, ces deux femmes sont un petit peu particulières, elles ont eu beaucoup une vie dramatique, père du mari, un fils, donc il reste les deux dames Bijard, la fille et la mère. La fille terminera quasiment dans la folie. Elles fondent une œuvre qui va s'appeler l'œuvre de Saint-Pierre apôtre. En fait, elle est destinée à soutenir les prêtres. Elle est décidée à soutenir les prêtres et les séminaires des pays de mission, les séminaires indigènes. Alors fournir aux prêtres tout ce qu'il leur faut comme matériel liturgique et les aider, etc. Alors elle est fondée en mars, elle n'est pas fondée en mars 1920, elle est intégrée. Hein. Cette œuvre est fondée en 1890. Et en 1920, la papauté l'intègre à la propagation de la foi à Rome. Donc de la France sont nées trois institutions, trois œuvres de soutien à la mission. Et j'ai pu vérifier, parce que la question s'est posée, si les congrégations missionnaires dans le cadre de Lyon avaient obtenu de l'aide, par exemple financière, autre que celui de la propagation de la foi. Alors bien sûr, les familles, toutes les lettres sont là, le montrent, les familles apportent de l'aide. Il y a la société, bien sûr, autrichienne Léopoldine, qui, alors elle, déverse des flots d'or. Parce qu'il est vrai que la propagation de la foi fait son système de péréquation. Alors, les missions râlent en disant, vous ne donnez pas assez, enfin, on aimerait, etc. Alors, certains missionnaires, à force d'attendre, demandent à la société Léopoldine autrichienne, qui, elle, déverse des flots d'or, notamment le cas de Mgr Loras, évêque de Dubuc, hein, qui en demandera à la société Léopoldine. Est-ce que, alors, pour prendre le cas de Lyon, est-ce que, par exemple, la Chambre de commerce, puisque la question a été posée, est-ce que la Chambre de commerce, c'est-à-dire les milieux d'affaires, milieu saint-simonien s'il en est, philosophie saint-simonienne, la bourgeoisie, le milieu de l'industrie a soutenu les missions? Non. Je suis allé vérifier dans tous les rapports de leur séance sur un siècle et demi, 1815-1962, il n'y a strictement rien, si ce n'est une aide pour fonder la faculté de médecine de l'université de Beyrouth, qui est tenue par les jésuites, mais... Parce que pour l'État et pour la Chambre de commerce, c'est une œuvre qui est le prolongement de l'hôpital de Lyon et qui est soutenue par l'État. Donc du moment que c'est la faculté de médecine de Lyon, d'accord, alors c'est dans ce sens-là. Mais sinon, alors on verra qu'il y a une congrégation, oui, ce qui pose un petit problème sur le rapport, donc justement, colonisation, milieu d'affaires, et on verra ça tout à l'heure. Alors à partir de là, les vocations vont fleurir parce que la propagation de la foi édite des annales, les annales de la propagation de la foi, qui prennent le relais des lettres édifiantes et curieuses des jésuites du 16e, 17e, 18e siècle. Et comme ça a paru donc, avec la suppression des jésuites, eh bien les annales prennent la suite. Les annales prennent la suite et on constate, j'ai pu constater, que ces annales avaient joué un rôle énorme dans la naissance de vocation. Monsieur le curé, épris d'histoire missionnaire, lit les lettres en chair. Tel adolescent, tel jeune entend ces lettres, oh, c'est fantastique, allez là-bas, terrain, développe une vocation missionnaire, entre dans une congrégation, une congrégation missionnaire qui n'est pas très loin dans le secteur, à proximité, où il a entendu parler, et puis... Au bout de quelque temps, il part en mission, il envoie des lettres dans la paroisse, à des amis, à des cousins, et là, de proche en proche, évidemment, on voit des vocations fleurir en quantité impressionnante. Et on a ce phénomène de proximité qui joue énormément, et on constate que autour des congrégations, on a de véritables bassins de réception, hein, d'attirance de congrégations, et même des secteurs où on verra, par exemple, prenons la société des sœurs missionnaires, les sœurs missionnaires de la Société de Marie, c'est-à-dire faisant partie du groupe mariste. Vous voyez ici que, par exemple, autour de Lyon et Saint-Étienne, hein, eh bien, les vocations sont très nombreuses, sous toute la partie noire. Bon, les franciscaines de la propagation de la foi, petite congrégation née à Francheville, n'attirent dans la région que de ce côté-là, mais pas du côté de la Loire, très peu. Bon, etc., etc., on pourrait multiplier les exemples. Le cas de Notre-Dame des Apôtres. Alors ça, c'est un cas intéressant, Notre-Dame des Apôtres. Congrégation née à Lyon, qui est là pour aider la société des missions africaines de Lyon, puisqu'il leur faut des femmes, à la fin, donc, de la deuxième partie du 19e siècle. Et là, vous voyez où, dans le diocèse, elles ont recruté, uniquement autour de Saint-Étienne et de Lyon. Ailleurs, non. Ailleurs, ce sera d'autres congrégations qui attireront. On constate que, par exemple, 44% des frères maristes des écoles qui vont partir en mission sont de la région de Lavala, ici au-dessus de Saint-Étienne, autour de Givors, Rive de Gier, etc. Donc, le fait de proximité joue énormément et fait que, avec les revues missionnaires, les annales de propagation de la foi, le bouche à oreille, les lectures au prône le dimanche, les relations familiales, même parfois le fait d'avoir dans sa famille le cas typique des sœurs Saint-Joseph de Cluny, où Mère Javouet, qui a de la famille dans le nord du diocèse de Lyon, au nord du Rhône, tout au nord du Rhône, mais vraiment au nord du Rhône, hein, Saint-Bonnet-des-Brouillés, etc., eh bien, deux cantons, deux archiprêtrés, la plupart des filles qui sont parties en mission dans ces deux archiprêtrés vont chez Saint-Joseph de Cluny parce que c'est bourré ici, excusez-moi le terme, mais enfin, c'est une quantité de cousins, de cousines, de frères, de sœurs, de parents, etc. Alors, on y va, on rentre par famille entière dans les congrégations. Et il y a là donc cette notion de réseau qui est très importante, hein, où on voit finalement que dans le terreau local, hein, dans le terreau local, que la relation entre séminaire, école apostolique, petit séminaire, paroisse, congrégation religieuse, famille, il y a une sorte de synergie, hein, qui fait que cela donne des vocations considérables. Alors, toutes ces vocations vont trouver à s'employer parce qu'il y a un champ de mission énorme au XIXe siècle, reprise des missions, hein, et puis des champs nouveaux à explorer. Et c'est ce que nous allons voir dans une deuxième partie, où vont aller ces nombreuses vocations. Songez que rien que le diocèse de Lyon a donné plus de 2000 vocations, les 5 diocèses de la Bretagne, c'est-à-dire les missionnaires bretons, le travail, la thèse du père Joseph Michel va sortir, c'est 10 000 missionnaires. Pas au XIXe siècle, mais finalement depuis le début, mais il faut compter, faudrait compter 4, 5, 6 000, 5 à 6 000 à peu près, peut-être rien que pour le XIXe siècle, des diocèses qui sont énormes, hein. Donc faut pas s'étonner que la France ait donné les deux tiers. Alors, dans ces aires de mission française, eh bien, il y a l'Amérique du Nord, reprise des missions. En 1815, Monseigneur Dubourg était chargé de la Louisiane, l'ancienne Louisiane française, immense territoire, pour s'occuper des Indiens. Il va demander de l'aide en Europe. Alors il reçoit la consécration épiscopale du pape Pie VII. Pape Pie VII qui était passé d'ailleurs à une époque à Lyon, là. Et puis il y avait une future religieuse, fondateur, je crois que c'est Claudine Thévenet, qui disait un petit peu dans son patois, puisque vous voyez que tout le monde embrassait les mules du pape, alors, qui disait dans son patois croustillant, qui c'est issu-là qu'il faut baiser le paton, hein, et qui s'étonnait effectivement qu'on allait embrasser les pieds du pape. Alors, le Monseigneur Dubourg revient donc avec des prêtres, des séminaristes, il s'arrête à Lyon, il remplace le cardinal Fesch exilé, l'oncle de Napoléon, à qui il avait fait main reproche. Mais le cardinal Fesch, si c'est un cardinal qui est monté aux honneurs très rapidement et qui a été choisi et nommé par Napoléon, ce n'en est pas moins un grand cardinal, puisqu'il a fait énormément pour reconstituer les vocations du diocèse de Lyon, qui fera de Lyon un diocèse pourvoyeur de prêtres dans le reste de la France. Alors, il part avec des séminaristes et des prêtres, des séminaristes d'ailleurs, hein, des jeunes séminaristes qui sont même pas encore ordonnés diacres, hein, qui termineront leurs études aux États-Unis, en Louisiane. Hein. Et ces jeunes séminaristes, ces jeunes prêtres sont hantés par les missions sauvages, hein, s'occuper des sauvages. En 1825, eh bien, nous voyons Monseigneur Portier, devenir premier vicaire apostolique des Florides. En 1829, eh bien, il est premier évêque de Mobile, puis Monseigneur Mathieu Loras, qui est nommé premier évêque de Dubuc en 1837. Ah, Monseigneur Loras, c'est une grande famille, les Loras, c'est une grande famille lyonnaise aussi. Il a sa statue d'ailleurs là-bas au Collège Loras, aux États-Unis. La statue est restée. Hein. Combien de ces missionnaires français ont leur statue encore, d'ailleurs, dans certains pays de mission, ou dans certaines écoles ou institutions qu'ils ont fondées, alors que nous, en France, nous avons perdu le souvenir, hein, et qu'on voit parfois des évêchés en France ou des paroisses qui sont étonnés de recevoir une lettre de tel et tel et tel évêque aux États-Unis disant « Voilà, vous avez un grand missionnaire qui a fondé telle mission là-bas et nous aimerions faire quelque chose. » Ah, on ne sait même pas, il n'existait pas le cas de Monseigneur Blanc, par exemple, sur l'île Comtale, etc. découvrent, alors que là-bas, il y a un mémorial à la Nouvelle-Orléans, mémorial Monseigneur Blanc. Il y a des musées, ils font un travail énorme, ils sont beaucoup plus en avance que nous sur la question. Ce qui fait que d'ailleurs, moi-même, en correspondant avec certains, ils disent « Mais bien sûr, mais nous avons une thèse qui a été faite sur un tel, une thèse qui a été faite sur un tel, une thèse qui a été faite sur un tel. » En France, ils n'étaient pas du tout au courant. Mais pas du tout. Monseigneur, alors tous vont s'occuper des Indiens, de ces Indiens, de ces tribus indiennes des États-Unis qui sont pourchassés par les WASP, par les Américains. Hein. Et je pense ici au premier vicaire apostolique, préfet, premier préfet apostolique, vicaire apostolique du Texas, Monseigneur Odin, sur son cœur et qui dit « Toi, tu es jeune, mon père, la robe noire, mais viens nous apporter le grand esprit, car nous aimons bien les pères, la robe noire. » Et c'était les jésuites. Et vois-tu, lorsque l'Espagnol est venu, ben l'Espagnol, nous lui avons donné des terres, et il a été bon, il a vécu en harmonie avec nous. Alors le Français, ben le Français est venu, et puis il a colonisé, on lui a donné des terres, puis il a été bon avec nous. Puis l'Américain, ben l'Américain il est venu, l'Anglais est venu, quoi. Et nous lui avons donné des terres, et puis il nous a chassés de nos terres. Ça, c'est un élément important qui permet justement de juger, d'avoir le regard de l'Indien sur la colonisation. Hein, qui montre très bien d'ailleurs que la colonisation WASP, c'est-à-dire du protestant, de l'anglais, du puritain, est raciste. Elle est raciste et exterminatrice. Elle ne fait pas de brassage de sang, alors que chez les catholiques, on le voit. Hein, on voit très bien ça dans toutes les missions. Hein. Et il est question même d'essayer de fonder des réductions, pour des espèces de réductions, de villages pour les Indiens, qui seraient protégés de l'extérieur, pour les évangéliser. Mais ça ne marche pas parce que, bon, ils sont follement épris de liberté, hein, faut chasser dans la forêt, et puis progressivement, ils sont dégradés. Hein. Et puis, bon, c'est pas facile non plus d'évangéliser ces gens. En plus, il y a un langage qu'il faut adapter avec eux. Les missionnaires prennent le langage de l'Indien. Ils parlent du grand esprit. Je vais dire la messe pour le grand esprit. Et puis à la fin, quand certains y meurent, ils disent « Bon, ben alors, dis-moi comment il faut faire pour aller voir le grand esprit. » Alors le prêtre lui récite le credo, bon, ben voilà. Alors maintenant, si tu veux bien recevoir le baptême, « Ah oui, bien sûr, parce que je veux y aller. Hein. » Donc il lui donne le baptême, etc. Confession. Bon, tu avais toujours des enfants de Dieu, c'est bien certain, mais ce sont de grands enfants. Monseigneur Rosati demande lui aussi, donc qui est évêque là-bas en Louisiane, demande aussi, donc évêque, premier évêque de la Louisiane, le petit pays de la Louisiane, hein, non pas ce grand territoire de la Louisiane dont s'occupait Monseigneur Dubourg, puisque progressivement les évêchés, les territoires de mission se constituent. Donc au fur et à mesure que les églises se constituent, Rome morcelle. Et alors, il se trouve que là, Monseigneur Rosati, son appel est répercuté en France par la comtesse de La Roque-Jacquelin, la femme d'Henri de La Roque-Jacquelin, et qui va donc transmettre au religieux Saint-Joseph, congrégation qui est née, qui s'est reconstituée en France à Lyon, qui a été fondée par le père Médaille, eh bien, il fait appel donc à ses sœurs Saint-Joseph. Et le 4 janvier 1836, six sœurs de Saint-Joseph de Lyon partent pour l'Amérique. Au Canada, alors là, l'Église va se reconstruire et reconstituer les missions indiennes. Alors, comme le personnel missionnaire fait défaut, eh bien, on fait appel en 1841, Monseigneur Bourget, évêque de Montréal, fait appel à la France. Il obtient des jésuites et des oblats de Marie Immaculée. Alors, ces oblats de Marie Immaculée sont des prêtres extraordinaires. Ils étaient fondés par Monseigneur de Masneau. Et ils sont destinés à s'occuper des Indiens, des Inuits, hein, des Esquimaux, là-bas, montés dans le Grand Nord canadien, hein, et de s'occuper des tribus. En 1844, le vicaire apostolique de la baie d'Hudson et de la baie James, Monseigneur Provencher, fait appel lui aussi à des oblats. Parce que très vite, de vicaire apostolique, d'évêque à évêque, on se passe le mot en disant « Où est-ce que tu es obtenu ?» là, etc. Hein. En 1847, Monseigneur Blanchet, vicaire apostolique de l'Oregon, arrive de France avec des oblats, lui aussi. Donc tous travaillent dans ce champ très dur, déshérité, de populations très difficiles. Ces Esquimaux sont des populations très difficiles à aborder. La vie n'a pas de valeur, la vie d'une femme n'a pas de valeur chez les Esquimaux, la vie d'un homme n'a pas de valeur. Quand il devient un poids, il quitte l'igloo, il quitte la tribu et il va se laisser mourir dans un coin. Il s'abandonne, mange plus, nourrit plus, c'est fini, il va mourir, il est malade. Ça serait un poids parce qu'on se déplace. Ils ont une vie très dure, très rude. Ce sont des gens qui se nourrissent les sorbets, c'est du sang de phoque ou d'ours séché, hein, en gros blocs. Ils lèchent ça. Alors les missionnaires qui rapportent ça disent qu'au début, évidemment, il y a une répugnance de l'estomac telle, mais enfin, il faut s'y habituer, sinon on risque de mourir de faim. Et puis quand il n'y a plus rien à manger, ben, on mange les vêtements de peau, hein, et puis on attend la prochaine saison. Enfin, on essaye de faire le lien avec ça. Hein. Et souvent, d'ailleurs, la viande qui est mangée, c'est une viande qui est déjà, depuis longtemps, passablement verte, hein, ce qui fait que, d'ailleurs, le goût est complètement dénaturé, ce que disent les missionnaires. C'est un monde très particulier. En 1850, le pape Pie IX consacre à Rome Monseigneur Armand de Charbonnel, évêque de Toronto. En 1850. C'est un prêtre qui est natif de Monistrol-sur-Loire et ancien élève des Basiliens d'Annonay. Alors, le territoire de son diocèse canadien, il est très vaste, il est compris entre les lacs Huron, Érié et Ontario, donc la région des lacs, énorme. Il a un clergé étranger, alors il fait appel, bien sûr, à d'autres séminaristes, d'autres prêtres. Hein. Et en 1852, les Basiliens d'Annonay, c'est normal, ancien élève, vont venir fonder un premier petit séminaire collège du diocèse. Nous voyons là un aspect qui est important, dont je parlerai tout à l'heure. Là, je montre l'aspect un petit peu de développement de ces missions, où je parlerai plus en profondeur des méthodes missionnaires dans un moment. On voit un aspect très important qui est celui de l'éducation, j'y reviendrai tout à l'heure. À partir de 1890, l'ouest des États-Unis, en revenant aux États-Unis, est complètement intégré à l'Union. Donc les frontières sont abolies. Les Indiens sont des victimes donc, de la politique de l'État américain. Et l'Église américaine s'inquiète de leur sort, elle essaye de les aider, mais ceux qui sont enfermés ceux qui sont parqués, eh bien, l'État fait obstacle à la mission catholique en y mettant des missionnaires protestants, dont ils ne veulent pas. Le missionnaire protestant, c'est celui qui vient avec de l'argent, hein, qui vient bien habillé, qui vit de son côté, puis qui essaye de les convertir, mais sans trop se mouiller lui-même. Or, il n'aime pas les protestants. Dans certaines tribus, il ne fallait surtout pas que le pasteur passe, il terminait scalpé. C'était illico, chez les Sioux, les Apaches. En revanche, le missionnaire catholique, lui, s'en sortait. Monseigneur Dubuis s'est fait arrêter une fois, d'ailleurs. Il était à cheval, il s'est fait arrêter, je crois, par les... Je ne sais plus si c'est Apache ou les Sioux. Mais en fait, il en a réchappé, il n'a pas été scalpé, tout s'est bien passé pour lui. Puis c'était une force de la nature. Mais les Indiens savaient faire la différence entre le missionnaire et le mercenaire. Car pour les Indiens, le pasteur protestant, c'est le mercenaire. Il est la solde d'un État. Alors, durant cette période, la fin du XIXe siècle, vont débarquer aux États-Unis les petites sœurs des pauvres. Ces petites sœurs des pauvres ont des tâches bien discrètes, soins, lingerie, quêtes, soins des vieillards, des malades, en hôpitaux, et surtout dans la partie des 13 colonies l'Est. Donc elles n'ont pas une vocation, elles n'ont pas une mission vraiment évangélisatrice, mais notons une chose, qu'elles sont en milieu protestant, donc que leur dévouement, que leur attitude est missionnaire et apostolique, c'est-à-dire qu'elles entraînent des conversions de protestants. C'est vrai. Mais surtout une chose, pour terminer sur ce milieu des États-Unis, à cette époque-là, c'est-à-dire à partir de Jules Ferry et jusqu'en 1907, les États-Unis deviennent un lieu de refuge pour les congrégations qui sont victimes des lois anticléricales en France. Alors là, il suffit de prendre n'importe quelle courbe missionnaire d'un diocèse ou la courbe des missions en France pour se rendre compte que l'on a une flèche énorme entre 1890 et 1907. Là, le point culminant est autour de 1901-1902, puisque vous savez qu'en 1901, la loi 1901 des associations est créée justement pour ça, et que Waldeck-Rousseau demande aux congrégations non autorisées de poser une candidature à la Chambre pour se voir bénéficier, pour pouvoir bénéficier de la loi 1901, alors qu'en 1802, Combes, ancien séminariste, qui est un personnage absolument cynique, retors, médiocre individu, un raté, fait, d'ailleurs en plus c'est pas moi qui le dis, c'est les historiens qui étudient la question, notamment l'historien Dreyfus, qui a travaillé sur cette époque, en les traitant de médiocres, ces gens-là, d'ailleurs profondément médiocres, s'étant complus dans des querelles d'un autre âge et n'ayant pas su voir où était l'intérêt de la France à cette époque-là, que ce soit Ferry et les autres. Eh bien, Combes fera interpréter la loi d'association 1901 de manière restrictive à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'on interdira, on ne délivrera aucune dérogation, aucune congrégation sera autorisée à partir de 1902. Donc elles partent toutes à l'étranger. Et ça va tourner au drame, puisque certains seront expulsés, des prêtres mourront, d'autres ne voudront pas quitter, là, que la police intervienne dans le cœur. Hein. Et des moines, des abbés qui étaient à genoux, là, seront emmenés à genoux de force dehors, et certains en mourront de chagrin. Et sachez qu'en 1904, à l'Assemblée, en pleine lutte anticlacale, et au moment où va se faire la séparation de l'Église et de l'État, préparée par Aristide Briand, eh bien, un franc-maçon à l'Assemblée monte en disant « Il faut faire enlever le vêtement aux religieux, car vous les laïciserez et vous tuerez l'Église comme ça ». C'est une affaire connue hein, dans le débat de l'Assemblée, il faut le dire, en 1904. C'est extraordinaire. Ils avaient bien compris comment il fallait faire. Donc il y a là une haine contre l'Église terrible. Ce qui fait que beaucoup vont partir, beaucoup qui n'avaient pas le goût aux missions vont partir. Alors les assomptionnistes, les jésuites, les frères maristes, les sœurs de Saint-Joseph, les frères des écoles chrétiennes, et qui vont fonder des œuvres de partout. Ils vont aller surtout dans les pays du Levant, hein, d'accueil, en Europe, en Espagne, ailleurs, hein, en Angleterre, accueillis en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. Autre mission, les missions d'Asie. Et les missions d'Asie sont des missions dures au XIXe siècle. Ce sont les missions où il n'y a pas de protection pour le missionnaire. C'est l'énergie de Grégoire XVI qui va permettre au début du XIXe siècle de reprendre les missions d'abord de l'Inde. Devant l'inertie de Lisbonne, à qui étaient confiées les missions dans le cadre du patronat, eh bien, la propagande va créer des vicariats, ce qui va entraîner d'ailleurs notamment le fameux schisme goanais de l'église de Goa, qui ne veut pas reconnaître les propagandistes, c'est-à-dire au fond ceux qui sont envoyés par Rome, les vicaires apostoliques, et qui prétend relever du roi d'Espagne, Goa du Portugal, donc du système du patronat. Schisme ici, entre guillemets, ils vont rentrer dans l'église, mais en fait ils frondent. Ce n'est pas un véritable schisme, c'est une fronde. En juillet 1836 est rétabli le vicariat de Pondichéry et de la côte de Coromandel qui est confié aux missions étrangères de Paris. Et c'est Monseigneur Bonan qui arrive, qui est donc le premier vicaire apostolique et à qui on confie aussi le vicariat du Maduret, c'est-à-dire ancienne mission jésuite. Il débarque là-bas. Et il va s'occuper, à travers plus de deux synodes, de proposer des méthodes d'évangélisation qui respectent les principes de la propaganda fide. C'est-à-dire, séminaire indigène, respect des cultures, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est important. On accepte que les séminaristes gardent le turban sur la tête, on ne peut pas leur enlever. On accepte les distinctions de caste, sinon c'est pas possible. On ne peut pas évangéliser. Pensez donc les intouchables, les impurs, les si, les parias, ça fait des drames, donc vaut mieux ne pas y toucher. Il y a un jour, dans un séminaire, un prêtre qui s'occupait, le père spirituel, qui s'occupait donc des séminaristes, qui de faire enlever le turban. Ah ben c'est la révolution chez les séminaristes. Monseigneur Bonan est obligé d'intervenir en disant « Non, non, nous n'intervenons pas dans des choses où il n'y a pas de rapport avec la gentilité, etc. Donc nous ne touchons pas au turban, nous ne touchons pas à tout ça. » On n'y touche pas. Les religieuses viennent en Inde. Alors évidemment, c'est tellement vaste cette histoire des missions du XIXe siècle que je ne peux pas parler de toutes les congrégations, de tout ce qu'elles ont fait, de tous les vicaires apostoliques, de tous les territoires de mission. Je vous donne des exemples. on s'y perd dans cette histoire missionnaire. Alors, les religieuses de Jésus-Marie, qui viennent en Inde à l'appel de Monseigneur Borghi, en 1842, vicaire apostolique d'Agra. Oh, Agra, ça doit rappeler, dans l'histoire de la Vendée, Monseigneur Guillot de Folleville, vicaire apostolique in partibus d'Agra, qui n'était rien d'autre qu'un prêtre jureur de la région de Dole, et qui était le conseiller de... c'est le conseiller de Stofflet, l'abbé Bernier, qui l'avait reconnu. Mais comme il bénit toutes les victoires, tous les drapeaux et tout, on ne dit rien, on ne dit absolument rien. Et quand il passera, qu'il sera guillotiné, arrêté, on lui posera la question, « Es-tu, Monseigneur d'Agra ?» Il dira, « Je suis celui qu'on nommait ainsi. Bon, » évidemment, au seuil de la mort, il est un peu difficile de... Alors, oui, on me nommait comme ça, ça ne veut pas dire que j'étais effectivement celui-là. Bon, bref. Donc, ça rappelle ça. Donc, vicaire apostolique d'Agra. Alors, cette congrégation vient, elle ouvre des pensionnats, des orphelinats, des écoles, hein, à Agra, à Mussoorie, à Sardana, à Sialkot, Patna, Bombay, etc. Il se trouve que, en 1857, l'Inde traverse un mauvais moment. C'est la révolte des Sipaïs. Les Sipaïs, ce sont des soldats. Il se trouve qu'il y a parmi eux des hindouistes et des musulmans. Et le bruit court, probablement par des nationalistes qui voulaient rétablir les princes traditionnels et chasser l'occupant anglais, le bruit court que les armes qu'ils utilisent sont faites avec de la graisse de porc. Alors vous imaginez que pour aussi bien les hindouistes que les musulmans, c'est le drame. Parce que pour les hindouistes, on a tué un animal, mettant psychose, réincarnation. Pour les musulmans, c'est du porc. Alors bon, c'est la révolte. C'est le drame. On massacre, on tue, on pille. Le feu, une partie de l'Inde est à feu et à sang. Et là, il faut lire les relations des lettres et des témoignages des sœurs de Jésus-Marie, qui sont toujours installées à Fourvière, d'ailleurs, qui ont essaimé aussi dans le monde entier, de miracles qui se sont produits là-bas, d'ailleurs de miracles de l'Eucharistie qui sont impressionnants, hein, de prêtres qui sortent avec le ciboire devant les massacreurs, et il lui dit, tu n'iras pas plus loin, mon Dieu est là et t'en empêchera, fais-le voir. Il ouvre le ciboire, et l'autre met son nez dedans et il tombe à la renverse du cheval, hein, etc. Ou d'autres miracles de ce genre qui sont attestés. Hein. Visiblement, un certain nombre de missionnaires, de catholiques, d'enfants, d'orphelins ont été, de chrétiens ont été, ont bénéficié d'une aide du ciel particulière. Beaucoup meurent, bien sûr, massacrés, martyrisés. Après la révolte, il faut tout reconstruire. Orphelinat, école, couvent. En 1892, les Capucins de Paris réclament des religieuses aussi pour s'occuper d'écoles et d'ouvroirs. Alors notamment, ce seront les franciscaines de Sainte-Marie-des-Anges qui vont venir, hein, et qui avaient été fondées par le père Chrysostome de Lyon, un Capucin de Lyon qui avait fondé qui avait aidé donc une religieuse à fonder les franciscaines de Sainte-Marie-des-Anges. Et elles vont fonder leur mission donc à Moho ou à Rajputana. En 1900, Mgr Pelksmann, vicaire apostolique de Lahore, fait appel aux franciscaines de la propagation de la foi pour s'occuper notamment d'un asile, le Lunatic Asylum de Lahore. C'est un asile de fous, un asile pour s'occuper de femmes folles, hein. Et ces religieuses vont s'occuper. Et elles auront les religieuses qui en occuperont auront les félicitations du gouvernement anglais, hein, du gouverneur du Pendjab. Bon, autre mission en Asie, l'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est, c'est l'une des missions, c'est-à-dire le Vietnam surtout, je vais parler surtout du Vietnam, une des missions qui a le plus souffert dans l'histoire. En 1820, le roi du Vietnam, Gia Long, meurt. Gia Long avait vu Louis XVI, il avait été élevé à la cour, il ne s'est pas converti au christianisme, mais il était favorable aux chrétiens. D'autant plus que Mgr Pinault de Béhen lui avait aidé, c'était un petit peu entiché de lui, avait voulu essayer de l'éduquer dans l'esprit européen et chrétien, et la France avait aidé Gia Long à retrouver son trône. Donc il aura toujours une dette de reconnaissance vis-à-vis des catholiques. Donc il est tolérant et bienveillant. Mais à sa mort, son fils, Minh Mang, est hostile aux chrétiens et aux Européens. Et en 1825, il publie un édit de proscription contre les chrétiens. Bon, néanmoins, des missionnaires débarquent. En 1827, Mgr Taberde est premier vicaire apostolique de la Cochinchine. Et le père Rotor, qui débarque à cette époque-là, va devenir... assez rapidement, dans les années 40, le premier vicaire, enfin, non pas le premier vicaire, mais le deuxième ou troisième vicaire apostolique, du Tonkin occidental. Après Ming Mang, Thuotri, son fils, relance en 41 les persécutions. Puis progressivement, il y a une espèce de calme. Alors, Monseigneur Rotor va retourner la situation. Il se dit, c'est très simple, puisqu'on ne nous donne pas la liberté de pratiquer notre religion, ben nous allons prendre la liberté de la pratiquer, puisque pour l'instant on n'applique plus vraiment les édits. Alors on ressort les chapelles, on ressort les étendards, les drapeaux, on ressort tous les ornements, etc. Et on va de village en procession, à tel point que les païens sortent, et puis les mandarins le regardent médusés en disant, tiens, il y a le roi de la religion qui passe. Ça fait grincer des dents le pouvoir, mais bon, Thuotri dit pas grand-chose. D'autant plus que Monseigneur Rotor utilise l'argent pour corrompre quelques mandarins. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas très sûrs, alors comme certains aiment beaucoup l'argent, il leur donne de l'argent. Ce qui fait que le bienheureux Théophane Venard, lorsqu'il arrive, il trouve que, il aime bien Monseigneur Rotor, il trouve que c'est un saint homme, il est extraordinaire, il est fabuleux, mais il en parle dans une lettre, il dit que quand même cette méthode, ça chatouille un peu sur sa conscience. Ce pauvre Monseigneur Rotor mourra abandonné dans la montagne parce que finalement les persécutions vont reprendre. Lui-même en sera chagriné. Le jour d'ailleurs où son séminaire à Vintry, le premier père qu'il a ordonné, indigène, vietnamien, est emmené en captivité, que je crois même qu'il est tué, que le séminaire, Monseigneur Rotor se met, il en est foudroyé, il se met à pleurer, mais à pleurer de désespoir, et il part en montagne. Et de la montagne, quelques-uns viennent le voir et lui apprennent ce qui se passe dans ses missions, notamment le cas de Saint Jean-Louis Bonnard, qui est né à Saint-Christo-en-Jarret, ici, et qui a été canonisé par Jean-Paul II en 90, qui est un grand saint, qui sera arrêté, peu de temps après être arrivé dans son district, arrêté, interrogé, il n'est pas torturé. Il a des moments, bon, bien sûr, il est attaché avec la cangue, autour du cou et les mains en l'air, les pieds. En prison, il a des moments de liberté. La femme du mandarin et son fils viennent le voir, lui parler du christianisme, de religion, veulent s'instruire quand même. Sa condamnation à mort est signée, bien sûr, par l'empereur, et il sera donc décapité. À côté de lui, il y a d'autres missionnaires qui ont souffert énormément, et des religieuses aussi. Je pense à certains missionnaires à qui on a appliqué le supplice des tenailles. Et alors on leur demandait qu'est-ce qu'ils préféraient, si c'était les tenailles chaudes ou les tenailles froides. Et bien c'est les tenailles chaudes, parce que les tenailles chaudes brûlent la chair et coupent plus rapidement les muscles. Alors que les tenailles froides, évidemment, à froid, c'est plus difficile, donc ça fait plus mal. C'est pour vous dire à quel degré on en est rendu. Le même père, d'ailleurs, Mattevon, était enfermé dans un grenier. Ceux qui mouraient autour d'eux étaient laissés. Les communistes font la même chose dans les camps vietnamiens, en Indochine. Ils font exactement la même chose qu'on fait le sieur Boudarel, ancien traître à sa patrie, et qui a participé à ce genre d'horreur. Eh bien, elles n'ont pas changé. Simplement, sur les communistes, elles sont systématiques. Elles sont systématiques et on ne corrompt pas un communiste. Très différent. C'est par fanatisme. Alors que là, c'est moins par fanatisme que par défense et puis rejet du christianisme, une agression extérieure. Donc elle n'est pas systématique, d'autant plus qu'il y a des mandarins chrétiens. Et puis, comme je vous disais, qu'il est facile de corrompre certains mandarins. Mais bon, le supplice des ongles, bien sûr, puis broyé, etc. Enfin bon, des choses absolument atroces, le supplice des sans-plaies. Certaines religieuses, d'ailleurs, des religieuses, des filles à charité, seront attachées à des poteaux, dépouillées de leurs vêtements, violées au poteau, lacérées au poteau, enfin vraiment, mais des trucs d'une atrocité, mais sans nom, mais une atrocité à tel point que quand même, il y aura des réactions, Notamment déjà sous Monseigneur Rotor, il y a des réactions. En Europe, on va s'émouvoir de ce qui s'est passé. Alors, la France enverra quelques corvettes pour essayer de les défendre. Seulement le problème de deux choses l'une. Ou la France vient défendre, mais elle y met le paquet, pardonnez-moi cette expression familière, ou alors elle ne vient pas. Mais sous Monseigneur Rotor, ils sont venus. À Touraine, il y a eu des échanges. Cette expédition française a raté. Ils sont repartis. Conclusion, les Vietnamiens ont ri. Hein. Ils sont moqués des Européens en disant « Regardez !» et ils ont repris les persécutions encore plus fort. Hein. Alors, notamment, c'est sous... la cruauté est quand même telle, atteint un tel degré, que Napoléon III, aidé de l'Espagne, intervient. Probablement Napoléon III, poussé par sa femme catholique, Eugénie de Montijo, hein, évidemment, aidé par l'Espagne. Eugénie de Montijo, espagnole, catholique. Lui, c'était pas vraiment ce qui l'intéressait. Alors, par le traité du 5 juin 1862, ben, le Vietnam entre dans une nouvelle phase. Hein, et c'est le début de ce qui sera progressivement la colonisation de cette région. Et alors, beaucoup des missionnaires vont arriver à cette époque-là en plus grand nombre pour évangéliser ces régions. En Chine, eh bien, en 1840, Rome érige le vicariat de Mongolie qui est donné à Monseigneur Florent Daguin. Florent Daguin, qui est un prêtre de la mission. Il est connu, pour vous dire que même chez les lazaristes, Monseigneur Daguin ne leur disait rien, il ne savait même pas qu'en plus c'était l'un des plus grands vicaires apostoliques à avoir lutté contre la coutume des petits pieds, du bandage des pieds. Alors effectivement, en Mongolie, il n'arrive pas à pénétrer ce milieu. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se met à lutter contre la technique du bandage des pieds. Bandage des pieds des femmes, n'est-ce pas? Alors pour avoir des petits pieds mignons, absolument adorables, etc., il y avait même des concours de pieds qui se faisaient. Comme disait un universitaire spécialiste de la Chine, il disait, mais c'est quasiment à la limite de l'obscénité. À la limite de l'obscénité. Hein. Il y avait des concours, etc. Enfin, c'était vraiment... Mais alors, c'était des femmes qui étaient malades. Les os s'étaient souvent abîmés, rompus. Ça s'infectait. Elles marchaient mal. Hein. Alors, que fait Monseigneur Daguin? Ben, il lutte contre ça en disant, écoutez, je suis désolé, mais le Créateur vous a donné des pieds pour marcher. Hein. C'est pas pour limiter, pour empêcher la nature de se développer correctement. Du coup, à partir de ce moment-là, quelques-uns suivent. Et puis, il a des femmes qui arrivent, trouvant finalement que vraiment, il a des idées intéressantes. Hein, et progressivement, eh bien, il a de plus en plus de chrétiennes et de ménages chrétiens. Ce qui fait que, sous Monseigneur Daguin, en Mongolie, le fait d'être chrétien, c'est être en bonne santé et de ne pas avoir les pieds bandés. Vous voyez les conséquences de cela. Alors, certains missionnaires l'ont critiqué en disant qu'il allait un petit peu trop vite, qu'il faisait quand même, on dirait aujourd'hui, presque de l'inculturation. Il a tenu. Et finalement, sa politique a été apporter des fruits. En Chine, eh bien, les chrétiens subissent de mauvais traitements, là aussi, et dites persécutions. Hein, vivent des heures noires sous la férule de Kia King, au pouvoir depuis 1796. Et les ponts sont coupés avec l'Occident barbare. Alors, c'est le traité de Wampu en 1844 qui ouvre la Chine aux puissances européennes. Bon, là, les Anglais sont conduits de façon absolument abominable, obligés de faire le commerce de l'opium. Mais enfin, on ne s'étonne de rien des Anglais. Hein. Et en 1846, un édit de tolérance supprime le délit de christianisme. Donc, les catholiques peuvent arriver. Ça n'empêche pas les persécutions, notamment le père Chapdelaine et combien d'autres qui subiront de mauvais traitements. Je pense même à la fin du 19e siècle, à la révolte des boxeurs. Vers 1900, hein, ces sociétés des coups de poing, hein, où des paysans armés par souvent des mandarins ou des gens lettrés, hein, allaient massacrer les missionnaires et les Européens pour les mettre dehors. Ce sera le cas, par exemple, à Nanchang, d'une révolte où des frères maristes sont victimes. Alors, qu'est-ce qui se passe à Nanchang? Le frère mariste, directeur de l'école de Nanchang, frère mariste des écoles, écrit une lettre à son supérieur à Rome. Il dit, voilà, mon père, tout va bien, c'est merveilleux, j'essaye de faire des progrès dans la vie spirituelle, c'est vrai que j'ai du mal, essayons de faire signe, nos œuvres se développent, etc., etc., etc. Ben, il envoie sa lettre. Sa lettre part, et puis, le jour même, hein, il sort avec deux de ses confrères dans la rue, et ils entendent au loin des clameurs. Et au lieu de partir par une partie dérobée extérieure de la ville et prendre le cimetière et de s'enfuir dans la campagne, ils s'en vont dans les rues. Ils s'en vont dans les rues, ils fuient dans les rues et ils sont coincés. Ils sont coincés près d'un lac, lac de Nanchang. Alors le frère supérieur, le directeur de l'école, se dit, bon ben il ne reste plus qu'une chose, c'est quand même à sauver mes deux compagnons. Alors il se retourne près de la foule, puis commence à parlementer, tout du moins à faire des gestes. Les autres commencent par décharger leur arme sur lui, donc le piétine, etc. Donc quand la foule passe, ben, il ne reste plus qu'un cadavre sanglant derrière, et les deux autres frères sont obligés de se réfugier où ? Dans le lac. Ils se réfugient dans le lac, évidemment, dans le lac, ils sont cernés de tous les côtés, ils reçoivent des tuiles, des cailloux, et il ne reste plus qu'une mare de sang. Quelques jours après son supplice, après cet atroce massacre, la lettre du père supérieur, du directeur, arrivait à Rome pour dire que tout allait bien. Bien, au Japon. Alors le Japon, c'est une mission qui s'ouvre qu'à partir des années 1870. Elle se réouvre, hein, surtout. En fait, c'est une mission... le Japon est resté fermé à l'Occident, très fermé à l'Occident pendant longtemps. Hein, et ce sont des occidentaux, diplomates occidentaux, qui interviennent et qui, par l'édit du 14 mars 1873, obligent le Japon à arrêter la persécution contre les catholiques. Ce qui fait que Mgr Petit-Jean confère en 1873 la tonsure au premier clerc de ce pays. Et lorsqu'il arrive, il découvre, quelque temps après son arrivée, une communauté de Japonais qui vient le trouver en disant « Voilà, nous avons eu des missionnaires, mais c'est nos pères, nos ancêtres, il y a longtemps. Et nous avons maintenu les prières du Notre Père, du Jour du Salut, etc. » Il lui montre tout ce qu'il récitait tous les jours. Ils n'avaient plus de prêtres, ces gens-là, depuis longtemps. Mais ils étaient restés catholiques, ils viennent le voir. Quand le pape apprend ça, il en pleure d'émotion. Et Mgr Petit-Jean lui-même. Et cette église va se redévelopper puisque Rome crée deux vicariats en 1876, celui du le Japon septentrional, hein, et du Japon méridional. Et à partir de ce moment-là, cette église redémarre. L'évangélisation de l'Océanie, eh bien l'Océanie, c'est une évangélisation qui est confiée pour une bonne partie aux pères maristes et aux sœurs maristes de Lyon. C'est pour ça que je la qualifierais quasiment de mission lyonnaise, parce que là vont se succéder des dizaines de vicaires apostoliques, de prêtres, de religieux, de religieuses venant du diocèse de Lyon, d'autres attirés bien sûr par cette congrégation, ou venus d'ailleurs. Alors, une partie de l'Océanie, celle orientale, est évangélisée par les pères de Picpus, les Sacré-Cœurs de Jésus et de Marie. Le premier vicaire apostolique, le premier évêque, premier vicaire apostolique de cette région, c'est le père Étienne Rouchouze. Le père Étienne Rouchouze, qui a 32, 33, 34 ans, premier vicaire apostolique, c'est un petit jeune. Il arrive, il va s'occuper de Gambier, des îles Sandwich, Marquise, etc. Et là, il va fonder une mission, j'en parlerai tout à l'heure, d'un type un peu particulier, qui fait penser un petit peu aux réductions. En 1836, le pape Grégoire XVI reconnaît la société fondée à Lyon par le père Colin, des pères maristes, et il lui donne un but missionnaire, puisque ça faisait déjà pas mal de temps, c'est déjà depuis 1816-1817 que le père Colin, Champagnat et d'autres voudraient que cette congrégation soit reconnue. Mais Rome se laisse supplier... pendant longtemps. Et finalement, tout d'un coup, Rome se dit, mais tiens, il faut évangéliser l'Océanie. Ah, ben à Lyon, là, il y en a qui demandent leur reconnaissance. Tenez, ah ben d'accord, on vous reconnaît à condition que vous acceptiez l'Océanie. Bon, ben marché conclu. Et on vous donne l'Océanie centrale et méridionale. Et le premier convoi part le 24 décembre 1836, dirigé par Mgr Pompallier, qui est un évêque du diocèse, qui n'est pas mariste. Mgr Pompallier, en voyage... sont avec lui d'ailleurs le père Bataillon, le père Brett, le père Servant, le père Chanel, et puis il y a deux autres frères, notamment le frère Jean-Marie Delorme. Bon, au cours du voyage, le père Brett meurt, ça ébranle ces missionnaires qui sont là en se disant, tiens, premier, jette le corps à la mer. On passe à Wallis et Futuna. À Wallis, on dépose le père Bataillon et un frère. À Futuna, on dépose Pierre Chanel et un frère, le frère Marinisier. Mgr Bataillon va devenir très rapidement le premier vicaire de l'Océanie centrale. Quelques temps après d'ailleurs la mort, dans les années 40, après la mort de Saint-Pierre Chanel, qui mourra martyrisé pour sa foi, hein, premier martyr de l'Océanie, premier saint, qui est né dans l'Ain. Monseigneur Pompallier, lui, va en Nouvelle-Zélande. Il va en Nouvelle-Zélande. Je vous parlerai de lui aussi tout à l'heure. Alors on peut dire qu'à ce moment-là, dans les années 30, commence véritablement l'évangélisation de l'Océanie. Évangélisation difficile pour deux raisons. Sont présents des protestants venant d'Angleterre, les Wesleyens, et qui sont particulièrement intolérants et désagréables, à tel point que c'est soit on combine avec des sauvages de jeter les missionnaires à l'eau, soit on les dénigre, hein, soit on passe des accords avec tel ou tel chef pour qu'ils ne débarquent pas. Il ne semble pas, malheureusement, en dépit d'ailleurs d'un certain nombre de collègues follement épris de cuménisme, d'histoire missionnaire écuménique qui voudraient voir les aspects à la fois protestants et catholiques, hein, il ne semble pas que les missionnaires catholiques se soient livrés à ce genre de manœuvre. Hein, pas du tout. Ah, bien au contraire. Enfin, d'après les sources. Hein, d'après les sources en notre possession. Et il y a aussi un autre élément qui rend difficile l'évangélisation de l'Océanie, c'est le fait que ce sont de multiples îles éparpillées. Hein. Donc il faut voyager, c'est... En 1843, Monseigneur Douard aborde la Nouvelle-Calédonie. Là, l'évangélisation sera très difficile. En effet, la présence de la France et d'un bagne rend suspect les Blancs, les Européens, aux populations qui sont là. Et comme certains ont été massacrés, eh bien, des frères, en 1847, il y a un frère qui sera... tués et des missionnaires devront évacuer l'île. Donc il faudra attendre 1851 pour reprendre pied. Hein, et tout doucement, l'évangélisation se développera. Mais ça sera difficile en Nouvelle-Calédonie. Là où les commerçants ou des bagnards ou des Européens n'ont pas posé le pied encore et ne sont pas venus se servir des indigènes, l'évangélisation est facile. C'est un constat que je fais. Hein. En dépit du soutien qu'on pourrait apporter à telle ou telle forme de colonisation, il faut bien dire que dans des cas où ça s'est fait de façon très sauvage, beaucoup d'Européens sont venus faire de l'argent, se sont servis des indigènes, et ça a entraîné une suspicion vis-à-vis des... Alors que par exemple, le cas de Wallis est extraordinaire. C'est une mission parfaitement réussie. Monseigneur Rouchouz à Gambier, c'est pareil. Ensuite, alors vous allez avoir... L'arrivée des femmes. Alors l'arrivée des femmes est un problème en Océanie. Les premières missionnaires, premières sœurs maristes du tiers-ordre qui vont arriver, d'abord il s'agit d'une laïque, d'une laïque lyonnaise qui est la première à venir là-bas en Océanie, qui veut aller voir Monseigneur Bataillon à Wallis. Et Monseigneur Bataillon ne veut pas du tout entendre parler de femmes à Wallis dans sa mission, parce qu'il y a des protestants et que les protestants ne croient absolument pas à la... chasteté, on pourrait dire, dans le clergé. Alors évidemment, c'est donner vraiment des verges pour se faire fouetter. Alors pas question que les femmes viennent. Mais finalement, il s'agit de Françoise Perroton, qui en 1945 se décide à venir, et elle débarque à Wallis. Alors le père Bataillon, qui le voit arriver, hein, à distance. Hein. Alors il la met dans un coin, etc. Et puis bon, en plus Bataillon a un caractère difficile... Les premiers vicaires apostoliques souvent sont quand même des hommes de caractère et alors, on se dispute un petit peu avec le père supérieur en France qui est toujours leur supérieur même s'ils sont évêques, vicaires apostoliques parce que les uns ont une vision de la mission puis les autres en ont une autre vision. C'est vrai qu'en France on a des visions plus théoriques alors que sur le terrain on a des visions évidemment pratiques. Bon, puis au bout d'un certain temps il trouve que cette femme est quand même extraordinaire donc finalement il l'accepte tout doucement sans trop de réticence hein, et ça donnera, c'est ce qui sera l'origine de ces... de cette congrégation missionnaire des sœurs missionnaires de la société de Marie. Et il y aura aussi les sœurs de Notre-Dame de l'Océanie. En Australie, alors l'Église catholique est minoritaire. Hein, les protestants sont installés, les anglais. Il y a quelques frères maristes lyonnais, quelques prêtres de paroisse. Il y a un père là-bas qui s'appelle le père Pierre Piquet, ou qui est très connu en Australie. Il est prêtre de paroisse. Il est connu parce qu'il va s'occuper de tous les marginaux. Alors, c'est pas parce qu'il s'appelle l'abbé Pierre, Je le comparerais plutôt à l'abbé Pierre Edgeworth, celui qui s'est occupé de prêtres réfractaires d'origine irlandaise, qui s'est occupé de donner la communion et les derniers sacrements à Louis XVI et qui s'occupait des bas quartiers de Paris. Alors là, on a peut-être deux abbés Pierre qui pourraient en remontrer à un certain autre abbé Pierre. Mais là, c'était leur prénom. Hein. L'abbé Pierre, il s'appelle Henri Grouès, de son nom de famille. Lui s'occupe des asociaux, des marginaux, et pour les convertir, bien sûr, pas pour occuper des logements. Aux Nouvelles-Hébrides, 1887, alors les maristes arrivent aux Nouvelles-Hébrides aussi. Et là, ils sont en concurrence avec les protestants. Alors, que font les pères maristes? Eh bien, il n'y a pas d'autre solution. Il s'agit de... C'est une véritable course. On construit un poste de mission, on n'attend pas qu'il soit vraiment établi, on laisse éventuellement un prêtre, un frère, puis on va en construire un autre, puis on va en construire un autre, on va en construire un autre, on va en construire un autre. Bon. Là-dedans, évidemment, il y a des déchets, hein. Il y a des postes qui disparaissent. En plus, au milieu des pires difficultés, parce qu'il y a des sauvages qui sont tellement atroces qu'il y a des pauvres missionnaires qui tournent, qui perdent la tête, hein. Il y en a qui deviennent fous là-dedans, il y a des massacres, il y a des enlèvements, il y a des missionnaires qui terminent leur vie fous. Je ne crois pas avoir vu autant de missionnaires fous que dans ces régions du monde, et notamment en Océanie et du côté, par exemple, de Nouvelles-Hébrides. Alors, dans certains cas, vu les échecs, alors on essaie de se chercher un vieux missionnaire dur à cuire qui n'avait pas peur du martyr et puis qu'on envoyait dans la mission. En disant, bon, tant pis, le jeune, il est bon pour une maison de repos jusqu'à la fin de ses jours. Et puis, alors on prenait quelques, effectivement, comme disent les missionnaires, je vous ai trouvé le terme lui-même, on cherchait quelques bons vieux durs à cuire. Dernière mission que j'aborde, enfin avant-dernière mission, l'Afrique. L'Afrique, eh bien, en 1807, c'est Mère Javouet qui a fondé les Sœurs Saint-Joseph de Cluny, qui va être appelée par, sur la suggestion du vicomte de l'Aîné, à envoyer des religieuses outre-mer. Alors on commence par les envoyer en 1816 à La Réunion et au Sénégal. Et puis, ensuite, à partir de 1850, Rome s'occupe de Madagascar, la préfecture de Madagascar qui est confiée aux jésuites. Ici, un jésuite célèbre, le père Finaz, qui fait penser au père Ricci, hein, qu'il ne faut pas comparer au père Ricci du XVIIe siècle. C'est la fameuse affaire des rites. Bon, peu importe. Le père Finaz ne peut pas pénétrer à Madagascar parce que la reine Ranavalona Ier est protestante et elle a lancé un décret contre les Européens et les catholiques. Alors, il se trouve que Finaz, qui est préfet apostolique de petites îles à côté, nos Sibis, etc., il en a assez. Il n'est pas fait pour ça. Il aimerait plutôt marcher, gambader. Alors, il apprend qu'un certain Lambert, négociant, va rencontrer la reine. Alors, chic, une idée, il prend le nom de sa mère, hein, Berthier, et puis Hervier, pardon, et il se joint à lui comme secrétaire, et il rentre à Madagascar. Il est accepté par la reine, Ranavalona. Hein, il passe pour un savant, un professeur, quelqu'un qui connaît pas mal de choses sur tout un tas de... etc. Il se lie d'amitié avec son fils, et puis il donne des cours, il construit même le premier télégraphe de Madagascar, il construit même un train miniature qu'il fait marcher, qui n'a jamais marché dans le bon sens, mais enfin comme il ne savait pas de toute façon dans quel sens ça marchait à Madagascar, ça n'avait pas d'importance. Tout ça lui apporte évidemment, lui amène des... lui apporte de la sympathie. En 1850, les Oblats de Marie Immaculée, eh bien, vont en Afrique, et notamment du côté du Natal. Et du côté du Natal, en Afrique du Sud, ils vont fonder de véritables réductions. Des colonies chez les Cafres. Une autre congrégation célèbre qui va rayonner en Afrique, c'est bien sûr la Société des Missions Africaines de Lyon, fondée pour Monseigneur de Marion Brésillac, qui va fonder cette société à Lyon, parce qu'il trouve que Lyon est une grande ville, et qu'après tout, c'est là que doit se constituer cette congrégation. Et le pape Pie IX lui confie le Sierra Leone en mars 1858. En novembre de la même année, eh bien, il envoie deux prêtres et un frère, qu'il va rejoindre lui-même en 59, avec un prêtre et un autre frère, au Sierra Leone. Il y a la fièvre jaune au Sierra Leone. Le capitaine du vaisseau dit à Monseigneur de Marion Brésillac, ne descendez pas, y passer. Il dit, ça fait rien, j'ai une mission, je descends. Il descend avec les cinq missionnaires, y resteront, Monseigneur de Marion Brésillac aussi, et ils seront tous enterrés là-bas. La première mission est un échec. Son second, qui est un prêtre, le père Planck, un homme d'une force de la nature, grande barbe, etc., prend la suite et décide de continuer. Rome reconnaît la congrégation en 59, et il, lui, comme supérieur de cette congrégation, de cette société. Il abandonne le Sierra Leone et se tourne vers le Dahomey, le Bénin. Et là, il envoie des missionnaires évangéliser cette région. Comme il a besoin de religieuses, il fait d'abord appel aux franciscaines de la propagation de la foi, et puis comme les franciscaines de la propagation de la foi sont un petit peu... Enfin, il y a des tiraillements de juridiction, on ne veut pas que les prêtres utilisent les religieuses pour telle ou telle chose. Donc ça casse, d'autant plus qu'une nouvelle mère supérieure a été nommée la mère Bonaventure, et là le père sait que de toute façon il n'aura pas le dernier mot, vu le caractère de la religieuse, donc il préfère entamer la rupture, et il va fonder lui-même sa congrégation, les Sœurs de Notre-Dame des Apôtres. Les Sœurs de Notre-Dame des Apôtres, qui seront là pour aider les missionnaires. En 1891, à la demande des catholiques du Bénin, eh bien Rome nomme un vicaire apostolique en choisissant Monseigneur Chausse, qui devient le premier préfet apostolique, le premier vicaire apostolique de la côte du Bénin. En 1879, Rome érige la préfecture de la Côte d'Or, la Gold Coast, et en confie la charge au père Planck, qui lui-même la donne à un prêtre, le père Auguste Moreau. Auguste Moreau, c'est un prêtre sympathique, un missionnaire sympathique. Quand il est mort, les Africains l'appelaient Fada Molo, Fada Molo, et tout le monde criait Fada Molo. Il est mort très jeune, avant 40 ans, usé par le chagrin, par les difficultés, le manque d'argent. À tel point d'ailleurs que ses lettres avec le père Planck et la procure de Lyon, les rapports se dégradent très vite.